Et si vous avez fait vos devoirs, vous avez vu que les problèmes dans cette église sont des problèmes très reconnaissables, n'est-ce pas? Alors, ce sont des lettres adressées à nous. Dans certaines églises, il y a problème de fausse doctrine. Une fausse doctrine qui ne remplace pas toujours la vérité, mais qui s'ajoute à la vérité. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que c'est si dangereux. Nous reviendrons sur ces points. Il y a, dans des autres églises, un problème de fausse liberté. On se croit libre à faire des choses qui sont défendues. Et cette fausse liberté donne lieu à la tolérance et même à la justification de certains péchés tels que l'idolâtrie et l'impureté. Et chaque lettre a le but d'enlever le voile des yeux des responsables et des membres de l'Église afin qu'ils voient la vérité de leurs propres yeux. C'est parfois pénible ça, n'est-ce pas? Nous n'aimons pas trop voir nous regarder dans le miroir, n'est-ce pas? Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, oh, qu'il vieillit cet homme-là. Hein? Il n'est plus si beau que vous riez parce que vous savez exactement la même réaction, n'est-ce pas? Et quand on regarde l'Église, quand l'Église se regarde dans un miroir, elle se rend compte qu'elle n'est pas si parfaite qu'elle devrait être. Alors, il y a dans chaque épître des instructions. Des instructions aux croyants individuels, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Vous avez remarqué ça? Pas que ceux qui ont des oreilles, celui. Chaque chrétien a sa place dans l'Église. Je n'ai jamais compris des chrétiens qui critiquent leurs églises. Ils se critiquent eux-mêmes alors. Chaque Église n'est pas mieux que ses membres. Et puis chaque épître comprend non seulement des instructions et des avertissements, mais aussi des promesses. Ah, ça c'est bien. Nous préférons des promesses aux avertissements, n'est-ce pas? Et chaque épître dit à celui qui vaincra, et puis suit des promesses. Le verbe en grec est dans un temps futur qu'on n'a pas en français. On l'a en anglais, mais pas en français. Et ça s'appelle le temps futur continuel. Ça veut dire que quand on lit en français « à celui qui vaincra », la pensée et le texte original, c'est « à celui qui continue à vaincre qui, », qui vit la victoire continuelle. Vous me suivez? C'est pas une seule fois, mais c'est une façon de vivre. Alors, toutes ces sept églises ne sont pas loin l'une de l'autre. Elles ne sont pas loin de l'île de Patmos où l'apôtre Jean se trouve quand il reçoit l'Apocalypse. Parce que l'île de Patmos se trouve à peu près une journée de bateau de Éphèse. Et les deux chapitres, 2 et 3, de ce livre l'Apocalypse contiennent donc ces lettres écrites par le Christ glorifié que nous avons déjà vu la fois passée se promenant parmi ces églises. Ce sont sept églises qui se trouvent en Asie mineure. Aujourd'hui, la Turquie, près de la mer Méditerranée. Et comme les autres lettres aux églises dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a encore des autres lettres, n'est-ce pas? Des lettres de Paul, de Pierre, de Jean, de Jude. Comme ces autres lettres, écrites par des différents apôtres, ces lettres sont reprises dans la parole de Dieu parce que elles parlent non seulement aux églises auxquelles elles sont adressées, mais à l'église entière de tous les siècles. En contraste aux autres épîtres dans le Nouveau Testament, ces sept courtes épîtres viennent directement de Jésus lui-même. Les autres épîtres viennent de Jésus aussi, mais via les apôtres. Tandis qu'ici, Jean, l'apôtre, il est seulement le secrétaire. Il prend dictée, n'est-ce pas? Il prend sténo. Et puis nous voyons que Jésus dit à chaque église, je connais tes œuvres. Jésus est au courant de la situation détaillée, profonde, de chaque église. Les lettres sont adressées aux anges de l'église, écrites à l'ange de l'église. Qui est ça, l'ange?
Oh!
En grec, le mot ange, c'est le même mot que ça veut dire messager. Et un messager, il porte le message de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Il est le messager de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ses propres idées. Et les anges ici sont probablement les pasteurs des églises. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Écrit à l'ange de l'église. Parce que les pasteurs ont la responsabilité d'apporter le message de Dieu à leurs églises. Chaque pasteur qui prêche un dimanche, il a déjà cherché la face de Dieu, il a déjà demandé à Dieu, que veux-tu que je dise à ton église dimanche? Et il prépare le message en fonction de l'inspiration que Dieu lui donne. Ce n'est pas son message à lui, c'est le message inspiré de Dieu. Alors, pour chaque église, il y a des jugements et ou des compliments. Deux églises, Smyrne et Philadelphie, ne reçoivent que des compliments. Deux églises, Sardes et Laodicée, ne reçoivent que des jugements. Et trois églises, Éphèse, Pergame et Thyatire, reçoivent aussi bien les compliments que les jugements. Alors nous voulons tous être membres à Smyrne et Philadelphie, et personne ne veut être membre à Sardes ou à Laodicée, d'accord? Lisons ensemble la première lettre, Apocalypse 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Nous avons commenté ça la fois passée. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'haïs aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Au temps du Nouveau Testament, la ville d'Éphèse était la première ville de l'Asie mineure. Une ville commerciale, importante, un centre religieux très important. Situé sur une colline au-dessus du confluent, pas de deux fleuves comme à Namur, mais de trois. Donc, ville stratégique. Dominée cependant pas par une forteresse, une citadelle, mais par un temple. Le temple de la déesse Diane, dont le culte comprenait beaucoup d'immoralité. L'église à Éphèse est mentionnée dans les Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Acte 19, l'apôtre Paul arrive à Éphèse probablement dans l'an 55, et en contraste à la plupart des autres villes où il va, à Éphèse, ce n'est pas lui qui fonde l'église, l'église est déjà là. Elle est toute petite, elle ne compte qu'une douzaine d'hommes, et ces hommes sont si peu instruits dans l'Évangile qu'ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Paul les enseigne, vous pouvez lire ça en acte 19, Paul les enseigne, prie pour eux, les baptise dans l'eau, et ils sont aussi baptisés dans le Saint-Esprit, parlent langue et prophéties. Et à partir de ce moment-là, cette petite église prend une croissance incroyable. C'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. 3 mois après son arrivée, l'apôtre Paul se voit exclu de la synagogue. Il commence des réunions dans l'école de Tyrannus. Et cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Vous vous rendez compte? Sans Internet. Sans Twitter. Même sans traité. Toute l'Asie. Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Il y avait une puissance de Dieu. Il y avait une percée de l'évangile formidable. Et le message de l'évangile impressionnait tellement que les fils de Sceva essayaient de l'imiter. Avec des mauvais résultats. D'autres brûlaient leurs objets idolâtres. Et le succès de l'église était tellement grand que l'orfèvre Démétrius et des autres commerçants qui profitaient du culte de Diane voyaient leur gagne-pain menacé, soulever la population contre les chrétiens. Réunis au théâtre, les gens accusaient Paul et Silas de toutes sortes de crimes. Mais le Seigneur les a protégés. Et Paul est resté à Éphèse pendant 3 ans au total, son séjour le plus long dans tout son ministère. Quelque temps après, il rencontre les anciens de l'assemblée d'Éphèse et leur dit ceci, « Prenez garde à vous-même. Il y a tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Et puis il dit ceci, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Malheureusement, c'était prophétique, ce qu'il disait là. Et 40 ans plus tard, voici maintenant cette lettre qui vient à l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous avons vu cela la fois passée. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. L'église d'Éphèse est une église qui travaille. Elle ne se contente pas seulement d'être spirituelle. Frères et sœurs, il faut dans l'Église de Dieu cet équilibre, n'est-ce pas? Les œuvres et la foi. La foi et les œuvres. La foi, si elle n'a pas des œuvres, est morte en elle-même. Peux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Les bonnes œuvres. Nous ne les faisons pas pour gagner notre salut. Nous les faisons parce que nous sommes sauvés. Et puis je connais ta persévérance. Tu as eu de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Mais tu ne t'es point lassé. Est-ce que nous persévérons? Beaucoup de chrétiens commencent. Beaucoup ne finissent pas. On ne persévère pas. La Bible dit « Persévérez dans l'amour fraternel. Demeurez ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne nous lassons pas de faire du bien. Soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Cherchez continuellement sa face. Il faut toujours prier, ne point se relâcher. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez sans cesse. L'apôtre Paul qui a écrit ces versets est un exemple de la persévérance, n'est-ce pas? Au point où à la fin de sa vie, après avoir subi beaucoup d'épreuves, il écrit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. » Ça c'est bien, mais j'aime bien ce qui suit. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ceux qui persévèrent au ciel, vous saurez qui ils sont parce qu'ils auront une couronne. Vous en avez envie? Oui? Moi aussi. Et puis, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Dans sa lettre aux Éphésiens, la lettre que Paul leur a écrite, il leur a dit ceci, ne prenez pas point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il doit y avoir une différence entre nous et le monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Aux Thessaloniciens, Paul écrit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère et de toute sœur qui vit dans le désordre. Aux Corinthiens, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Donc, aussi bien les méchants dans l'Église que les méchants hors de l'Église. Pour l'écrire aux Romains, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ne les tolérez pas. Éloigne-toi, dit-il à Tite, de celui qui provoque des divisions. Et à Timothée, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est vrai. Les hommes seront égoïstes. Amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est pas le temps que nous vivons, ça? Oui. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Comment est-ce qu'on appelle des gens comme ça aujourd'hui? Hypocrites, n'est-ce pas? Et Jésus dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ne tolérons pas les choses que Dieu ne tolère pas. Ne les acceptons pas. Nous vivons dans un monde où la pression est très forte, n'est-ce pas? Je parlais dimanche avec un pasteur d'une grande église à Rotterdam. Et ils ont eu beaucoup de problèmes à Rotterdam avec les islamistes. Ils ont un bourgmestre qui lui-même est islamiste, mais pas fanatique. Et ce pasteur me disait, les islamistes, ils peuvent dire tout. En public, crier à haute voix. On a peur de les arrêter. Mais si moi je me mets à la place du marché, et je dis que l'homosexualité est un péché, et je dis quelque chose contre le mariage des homosexuels, on va m'arrêter. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas accepter ce que Dieu défend. Et puis Jésus dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. L'Église a souvent été victime de faux apôtres, malheureusement encore aujourd'hui. Ils se disent apôtres. Ils ont parfois des ministères qui apparaissent réunis, réussis, des grandes églises, etc. Mais n'oublions pas que Dieu mesure le succès autrement que le monde. Et autrement que l'Église le mesure. Comment reconnaître des faux prophètes, des faux apôtres? Ce sont des chiens voraces. Tous suivre leur propre voie, chacun son propre, selon son intérêt. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils font pas que connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Et je suis profané au milieu d'eux. Jésus dit, c'est en vain qu'ils m'honorent. En enseignant des préceptes qui ne sont, qui sont des commandements d'hommes. Et Paul dit, ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Parmi ces faux docteurs à Éphèse, sont des gens que on appelait à l'époque des Nicolaïtes. Tu as pourtant ceci, que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Et les Nicolaïtes étaient une secte dont l'origine n'est pas certaine. Certains pensent que leur fondateur était Nicolas, un prosélyte de l'église d'Antioche, en Syrie, ou Nicolas qui est un des diacres dans l'église de Jérusalem, acte chapitre 6. Quoi qu'il en soit, cette secte se voulait chrétienne, mais elle ne l'était pas. Il y avait deux tendances que nous appelons autrement aujourd'hui, mais qui sont toujours un danger pour l'Église. D'un côté, il y avait, pour l'Église chrétienne, dans le temps de la Bible, il y avait les judaïstes, qui voulaient obliger aux chrétiens d'obéir et de se soumettre à toutes les 613 lois de l'Ancien Testament, y compris la circoncision, etc. L'autre côté, il y avait les Nicolaïtes qui disaient « Nous sommes libres, aucune loi, nous faisons ce que nous voulons. » Et cela a conduit à beaucoup de débauches. Jésus dit « Tu les haïs, c'est bien. » Et puis nous lisons ceci, au verset 4. Après tous ces compliments, quel dommage. Mais, il y a un mais dans cette église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Jésus a quelque chose contre cette église à Éphèse. Je ne sais pas ce que vous pensez, moi je n'aimerais pas que Dieu ait quelque chose contre moi. Ça me ferait peur, non? De savoir Jésus a quelque chose contre moi. On peut dire, oui, il est amour, d'accord, il est amour, mais il est aussi juste. Et lui-même ne tolère pas ce qu'il défend. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous avez remarqué, ils ne l'ont pas perdu, ils l'ont abandonné, c'est pas la même chose. Quand on perd quelque chose, c'est par accident, n'est-ce pas? Mon épouse avait l'habitude de perdre ses clés. Et à la fin, moi, j'étais un peu fatigué, elle perdit toujours ses clés, elle savait jamais où elle les avait mis. Je lui dis, réfléchis où tu les as mis. Et sa réponse, si je savais où je les avais mis, elle ne serait pas perdue. Ça, c'est la logique d'une femme, ça. Hein? Mais ici, il ne s'agit pas de perdre, mon épouse ne les perdait pas exprès. Mais quand on abandonne, on le fait exprès. On le fait consciemment. Et Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pas perdu, abandonné. Et la gravité de l'abandon du premier amour est accentuée par le fait qu'alors le Seigneur est contre nous. Je lis un texte en hébreu. Mon juste vivra par la foi. Mais, encore un mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. important, n'est-ce pas? Nous avons parlé de la persévérance, c'est le même cadre. En somme, ce n'est pas comment nous commençons la course qui est important, c'est comment nous la terminons. Le Seigneur Jésus nous dit ceci, « Parce que l'iniquité se sera accrue, il parle des temps de la fin. Moi, je crois les temps dans lesquels nous vivons. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de quelques-uns, non, du plus grand nombre, se refroidira. » Je ne sais pas ce que... Moi, ça me fait peur, dans un sens. Je me dis, du plus grand nombre, de la majorité, ils vont abandonner leur amour. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et Paul écrit à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Frères et sœurs, vous savez, un de mes grands-pères était un des premiers chauffeurs de taxi en Angleterre, dans une ville où il y avait beaucoup de collines. Il me disait, son premier taxi n'avait pas marche arrière. Pouvait pas faire marche arrière. Et je me dis, un chrétien ne devrait pas avoir une marche arrière. Son taxi ne pouvait aller que en avant. Et un chrétien, la même chose, non? Malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils ont 5 vitesses avant et 6 arrière. Non. N'abandonnons pas notre premier amour. Oh, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur la définition du premier amour. Je n'ai jamais compris pourquoi il faut écrire un livre. Tous ceux qui ont été fiancés et qui sont mariés savent ce que c'est le premier amour, n'est-ce pas? Le cœur qui bat, des étoiles dans les yeux, etc. J'étais marié pendant 44 ans, je peux vous dire, mon amour à la fin n'était pas comparé à mon amour au début, c'était beaucoup plus grand. Et ça doit être comme ça avec le Seigneur, n'est-ce pas? N'abandonnons pas notre premier amour, au contraire, que ça grandisse. Le jugement de l'abandon du premier amour est suivi d'un appel à la conversion. Associé à une menace si on ne se convertit pas. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est sérieux ce qu'il dit là, hein? Il y a des gens qui prêchent, une fois sauvé, toujours sauvé. On peut faire ce qu'on veut, on ne peut pas perdre son salut. Parce que si on pouvait perdre son salut, je suis pas théologien, mais si on pourrait perdre son salut, ce n'est pas un salut éternel. Faudrait qu'ils lisent ce livre, ceux qui croient ça. On ne le perd pas, on l'abandonne. N'est-ce pas? On ne le perd pas, on l'abandonne. Et on l'abandonne quand on tourne le dos à Dieu et à ses commandements pour retourner dans le monde et le péché qu'on avait une fois abandonné. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Vous savez, une chose que j'ai remarquée, et vous l'avez sans doute remarquée aussi, la grâce de Dieu passe au-delà de nos péchés. Quand je tombe dans le péché, le Seigneur ne me rejette pas, il pardonne et montre sa bonté. Mais quand il nous montre sa bonté après que nous ayons péché, c'est pas parce qu'il dit « Oh, le péché c'est pas important, c'est pas grave, continue seulement ». Non, c'est pour nous pousser à la repentance. Parce que l'amour est plus fort que la haine, n'est-ce pas? La paix est plus fort que la violence. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est l'évangile, n'est-ce pas? Mais si nous ne nous convertissons pas, si nous ne pratiquions pas ou plus nos premières œuvres, le jugement divin est très sévère. Je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est fort ça, n'est-ce pas? Vous regrettez d'être venu ce soir. Oh, venir et entendre ça? Non, parce qu'il suit maintenant une merveilleuse promesse. Et Dieu est comme ça. Il y a des menaces, mais il y a des promesses. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça nous fait penser à la promesse que Jésus a donnée au malfaiteur à la croix, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Et cette référence à l'arbre de vie, ça nous renvoie au jardin d'Éden. Avant la chute. Et l'arbre de vie portait du fruit qui faisait vivre éternellement. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden pour les empêcher de manger de l'arbre de vie. Mais maintenant, Jésus dit, celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Une garantie de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Nous ne l'espérons pas. Nous le savons. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Deuxième lettre. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Smyrne. Le mot Smyrne vient du mot grec pour la myrrhe. Vous savez, la myrrhe, un des cadeaux qu'ont apporté les mages à Jésus. Et c'est un parfum cher qui est obtenu des arbres en Arabie ou en Éthiopie. Et c'était employé surtout pour embaumer les morts. Et donc, significatif, symbolique de la souffrance et de la mort. La ville de Smyrne, au temps du Nouveau Testament, était fondée par le roi grec célèbre Alexandre le Grand. C'était aussi le lieu de naissance du poète grec célèbre Homère. Aujourd'hui, une grande ville en Turquie qui s'appelle Izmir, une des plus grandes et importante ville de la République turque moderne. Et Izmir compte toujours une population chrétienne, au point où les islamistes appellent cette ville la ville païenne, à cause des chrétiens qui y habitent. À l'époque, Smyrne était une très très belle ville, avec une architecture splendide. L'odeur dans la ville était moins splendide, parce que quand on a construit la ville, on a oublié de mettre des égouts. Il y avait aussi un temple dans cette ville, le temple dédié au dieu Bacchus. Connaissez le dieu Bacchus? Non, hein, nous sommes chrétiens. N'est-ce pas? Plaisir et boisson. Et Smyrne était connue pour l'ivresse. Étonnant, non? Et pourquoi? Parce que dans la région de Smyrne, le climat était tellement favorable que la région était l'un des rares endroits où la vigne donnait 3 récoltes par an. Donc, beaucoup de vin, beaucoup de boissons. Et il y avait une légende. Quand Jésus écrit à une église, il pense à leur situation. Il y avait une légende qui disait que le dieu Bacchus était décédé et ressuscité. Alors Jésus introduit sa lettre. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. La différence, c'est que pour lui, ce n'est pas une légende, c'est une vérité. Mais cette résurrection de Bacchus était fêtée chaque an avec une pièce de théâtre avec la participation des prêtres qui recevaient des couronnes, dites des couronnes de vie. Et Jésus promet, celui qui vaincra, je donnerai la couronne de la vie. Cette fois, si le Christ glorifié s'identifie comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. L'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? La vie des chrétiennes à Smyrne n'est pas facile. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Les chrétiens à Smyrne souffrent de la tribulation, ils sont pauvres, et les juifs les calomnient. Il semble que leurs circonstances ne vont pas s'améliorer parce que Jésus dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Je connais ta tribulation. Je connais. De nouveau, je connais. Rien n'arrive à l'église de Dieu. Rien n'arrive à vous et à moi sans que Dieu ne le connaisse. D'accord? Même les cheveux de notre tête sans compter. Un jeune chez nous a dit, il n'a pas eu beaucoup de travail avec toi. Oui, les jeunes, c'est comme ça qu'ils sont. Mais vous riez aussi. Mais tout ce qui se passe, frères et sœurs, je connais. Jésus dit, je connais. Nous ne pouvons jamais dire à Jésus, ce que je vis, Seigneur, tu ne le sais pas, toi. Si. Il connaît. Je connais ta tribulation. Oh, j'entends des prédicateurs qui prétendent qu'un chrétien ne doit jamais avoir de la tribulation. Un chrétien doit toujours vivre dans la victoire, toujours une santé parfaite, jamais des tentations de péché, et au moins 1 million à la banque. Je suppose qu'ils lisent une autre Bible. Parce que dans la Bible, quel homme ou femme de Dieu n'a pas souffert? Vous en connaissez? Au plus grand l'homme, au plus grande la femme en Dieu, au plus qu'ils ont souffert. Jésus dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. Il dit pas peut-être, vous aurez. Pas il se peut que vous aurez. Mais il ajoute, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et l'apôtre Jean qui écrit ces sept épîtres que nous sommes en train d'étudier, quand il les écrit, oh, il est en vacances en grec, n'est-ce pas? Sur une de ces îles de paradis. Non. Il est prisonnier. Travail forcé. 7 jours sur 7. Dans cette île de Patmos qui est une carrière où il doit sortir des rochers pour les bâtiments des Romains. Une île dénudée de tout arbre. Donc sans abri du soleil méditerranéen. Mais il survit parce que, comme il écrit dans un de ses propres épîtres, un de ses épîtres qu'il lui a écrit à lui-même, il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous savons ça, frères et sœurs. Je connais ta pauvreté. Pas de doctrine de prospérité, pas de l'évangile de prospérité à Smyrne, n'est-ce pas? Je connais ta pauvreté. L'évangile de la prospérité est une fausse doctrine. Mais l'Église a souvent prêché l'évangile de la pauvreté, n'est-ce pas? La pauvreté est une vertu. L'Église a dit, le meilleur chrétien, c'est le chrétien le plus pauvre. Il était donc recommandé de donner le plus d'argent possible à l'Église. Résultat, chrétien pauvre, Église richissime. Alors que Jésus dit, fondateur de l'Église, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme ne dort pas dans un hôtel 7 étoiles. Oh, la Bible ne condamne pas l'argent. Ouf, n'êtes pas content? Tous les millionnaires ici ce soir, Dieu ne vous condamne pas. Ce que Dieu condamne n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Connaissez l'histoire du jeune homme riche, presque un disciple de Jésus, presque devenu un disciple de Jésus, mais il ne l'est pas devenu. Pourquoi? Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il aimait ses millions plus qu'il n'aimait le Seigneur. Jésus est né pauvre, il a vécu pauvrement, il est mort pauvre, non parce qu'il est contre la richesse, mais vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et puis je dis, je connais ta tribulation. Ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Les calomnies sont pénibles, n'est-ce pas? Surtout parce qu'il est difficile, parfois même impossible, de s'en défendre. On dit de tout de nous, et on ne peut pas se défendre. Mais les calomnies deviennent encore plus pénibles quand ça vient des gens qu'on considérait comme notre frère et sœur. Ici, ce sont des calomnies qui viennent pas du monde, pas des païens, mais des juifs, qui croient dans le même Dieu, qui disent suivre le même Dieu. Jésus était particulièrement sévère contre ce genre de juifs. Il dit, vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et il y a des judaïstes, des faux juifs qui menacent l'Église aujourd'hui encore, qui mélangent la grâce à la loi, qui veulent amener l'Église sous la loi. Souvent, leur loi à eux, et ils font une Église légaliste, où la grâce et l'amour et le pardon sont relégués à une place insignifiante. Frères et sœurs, Jésus appelle ces gens-là, ce genre d'Église-là, une synagogue de Satan. C'est fort ça, n'est-ce pas? Ça porte le nom Église de Dieu. Jésus dit synagogue de Satan. La lettre termine avec un appel et des promesses. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. C'est un ordre, n'est-ce pas? Pas un conseil, c'est un ordre. Le texte favori du Seigneur, parce que le plus répété dans toutes les Écritures. Il y a des gens qui disent que Jésus dit « ne crains pas » ou Dieu dit « ne crains pas » 365 fois dans la Bible, hein, une fois par jour. Je les ai comptés. Moi, je ne suis arrivé qu'à une bonne centaine, mais c'est déjà beaucoup. Et si Dieu se répète plus d'une centaine de fois, pourquoi est-ce qu'il se répète plus d'une centaine de fois? Il me semble parce qu'il veut bien qu'on comprenne, n'est-ce pas? Il n'y a aucun autre commandement qui est répété plus d'une centaine de fois. Ne crains pas. Oui. Dieu nous offre une remède formidable pour la peur, la crainte. Il dit ceci. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Donc si vous avez peur, aimez plus. Et la peur va s'évaporer. Au plus que nous aimons, au moins que nous craignons. D'accord? Vous aurez, dit-il, certains seront jetés en prison. Tribulation de 10 jours. Difficile à savoir exactement ce que ça veut dire, ces 10 jours. Il est clair que la tribulation dure souvent plus de 10 jours. Certains pensent qu'il s'agit de 10 persécutions de l'Église qui vont suivre. Et en effet, dans les années qui suivaient, les siècles qui suivaient, il y avait 10 périodes de persécution de l'Église dans l'Empire romain. Quoi qu'il en soit, sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'où va notre fidélité? N'est-ce pas? Je ne vais pas vous demander de dire « Oui, je serai fidèle jusqu'à la mort. » J'espère que je le serai. Mais quand on est parfois confronté, ça doit être excessivement difficile. Un texte que nous avons déjà lu, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas, fidèles jusqu'à la mort, courant avec persévérance dans la carrière qui est ouverte. Demeurez dans mon amour. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. Sois fidèle jusqu'à la mort, et puis cette promesse. Je te donnerai la couronne de vie. Pas cette couronne donnée au prêtre de Bacchus dans le théâtre de Smyrne, mais la vraie couronne, la couronne de la vie. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux Églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À la fin du livre de l'Apocalypse, nous lisons ceci. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort, n'a point de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Je vais vous dire quelque chose, réfléchissez bien. Si nous naissons 2 fois, nous ne mourrons qu'une fois. Mais si nous ne naissons qu'une fois, nous mourrons deux fois. Si nous naissons deux fois, physiquement et spirituellement, nous ne mourrons qu'une fois, physiquement. Mais si nous ne naissons qu'une fois, physiquement, donc pas spirituellement, nous mourrons deux fois, physiquement et spirituellement. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Juste la mort physique, pas la mort spirituelle, parce que nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Troisième lettre, écrit à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit à l'Église. Celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Pergame était une ville très ancienne, fondée 1000 ans avant Jésus-Christ, donc du temps de David. Au temps du Nouveau Testament, elle était au centre de la mode, de la culture, de l'éducation, et le siège de la deuxième plus grande bibliothèque au monde après Alexandrie en Égypte. Cette bibliothèque avait 200 000 livres. Et le mot « parchemin » sur lequel était écrit la plupart de ces livres vient de Pergame, parce que c'était justement à Pergame qu'on l'a découvert et qu'on le fabriquait. Là aussi, il y avait des temples idolâtres. La montagne derrière la ville était couverte de temples idolâtres, dont le temple d'Aesculapius, qui est le dieu de la guérison, dont l'idole était un serpent autour d'un... Comment on dit ça? Oui, un verge. Le signe qu'on voit parfois chez un pharmacien. Jésus dit, Pergame est un véritable trône de Satan. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, un peu d'histoire. L'idolâtrie a commencé vraiment, et l'organisation de la religion païenne a commencé avec le tour de Babel, l'histoire de Nimrod. Et depuis cela, son quartier général mondial était toujours resté à Babylone, jusqu'au temps de Daniel, avec l'invasion des Médo-Perses, 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors les prêtres chaldéens se sont enfuis, et ils ont trouvé refuge à Pergame, qui donc est devenu le centre mondial de la religion païenne, devenant ainsi le trône de Satan. Et le souverain sacrificateur qui présidait toute cette religion païenne qui avait des branches en Égypte et en grec et en Grèce et en Italie, en Rome, le Dieu avait des différents noms, mais c'était la même religion avec la même idolâtrie, la même immoralité, etc., etc. Et le grand prêtre souverain sacrificateur portait le titre Pontifex Maximus, chef ou constructeur de ponts en chef. L'idée étant qu'il était le pont entre Dieu et l'homme. Jules César a adopté ce titre Et quand la religion chrétienne est devenue la religion officielle de Rome, le pape l'a repris. Il s'appelle toujours aujourd'hui Pontifex Maximus. Ça vient de Babylone via Pergame. Jésus s'introduit à l'église de Pergame en disant « Je suis celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants ». Nous l'avons vu la fois passée, n'est-ce pas? Il avait dans sa main cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. C'est quoi ça? Eh bien, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. L'épée tranchante, c'est une épée assez courte, l'épée, disons, de l'équipement standard d'un légionnaire romain. Mais à deux tranchants, si on vous met ça dedans, ça fait mal, n'est-ce pas? Très efficace comme arme. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, juge les sentiments et les pensées du cœur. Jésus s'introduit avec la parole. Il est la parole. Et les chrétiens à Pergame sont complimentés pour leur fidélité. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. C'est une très bonne église, non? Pergame. Oui, si la lettre terminait là. Mais il y a aussi un mais. Comme à Éphèse, Jésus a quelque chose contre cette église. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Vraisemblablement pas toute l'église, mais quand même des membres. Qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. L'église à Éphèse a rejeté la fausse doctrine. Mais certains membres de l'église de Pergame l'ont acceptée. Nous avons regardé la doctrine des Nicolaïtes déjà, mais la doctrine de Balaam était similaire. Connaissez l'histoire de Balaam dans le livre des Juges? Un faux prophète mercenaire dans l'histoire, non, pas dans le livre des Juges, m'excuse, Nombre, dans le livre des Nombres. Et il était payé, loué par Balak, le roi de Moab, pour maudire le peuple d'Israël, mais Dieu ne l'a pas perdu, n'a pas permis, hein? Il a défendu de maudire son peuple. Alors Balaam a conseillé à Balak à séduire Israël par l'idolâtrie et l'impudicité. Israël s'est laissé corrompre. Résultat, 24 000 morts. Parce que un enfant de Dieu n'est jamais libre de péché. Vous avez des gens dans l'église, à Pergame, qui adhèrent à la doctrine de Balaam. Ils trouvent qu'ils ont cette liberté de pécher, l'idolâtrie, l'impudicité. Et cette lettre termine aussi avec un appel à la repentance, une menace et une promesse. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. La manne, nous savons ce que c'est, n'est-ce pas? C'est la nourriture miraculeuse donnée par Dieu à Israël lors de leur traversée du désert, suite à l'exode de l'Égypte. Ça leur maintenait en vie, n'est-ce pas? Sans cette manne, ils étaient tous morts dans le désert. Dieu dit, celui qui vaincra, je donnerai de cette manne. Et puis un caillou blanc. Un tribunal à l'époque du Nouveau Testament, le juge avait devant lui deux cailloux, un noir et un blanc. Mais quand il prononçait son jugement, si vous trouvez innocent, il vous donnait le caillou blanc.
Si vous donnez le caillou noir, c'est pas bien. Comprenez? Nous sommes tous pécheurs, coupables. Si nous comparaissons devant le juge de tous les juges, il devrait nous donner un caillou noir. Mais à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Alléluia. Et puis, sur ce caillou, un nom nouveau. On aura un nouveau nom au ciel. Tout l'Apocalypse est le livre du nouveau. La nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel, la nouvelle terre, et ici des nouveaux noms. Un nom dans la parole de Dieu donne droit à des privilèges. Et Dieu donne toujours des nouveaux noms. Vous vous rappelez? On ne t'appellera plus Abraham, père honoré, on t'appellera Abraham, père d'une multitude, car je te rends père d'une multitude de nations. Ton nom ne sera plus Jacob, tricheur, mais Israël, prince avec Dieu. Jésus a donné un nouveau nom à Simon, qui veut dire roseau, qu'il nomme à Pierre, qui veut dire rocher. Et à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée, vous savez où c'était? Dans l'arche de l'Alliance, il y avait un pot de manne. Les Juifs ne le voyaient pas, jamais. Ils n'étaient pas permis, même de le voir, encore moins de le manger. Et nous, Dieu nous le donnera. Thyatire, pour terminer ce soir. Écrire à l'église, à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Nous avons vu ça dans le premier chapitre. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons vu Smyrne abriter un synagogue de Satan. Pergame abriter le trône de Satan. Thyatire connaît les profondeurs de Satan. Thyatire était consacré, la ville entière était consacrée à l'adoration du dieu Apollo, ou Apollos, le dieu du soleil, le dieu principal de toute la religion païenne, qui s'appelait Ré en Égypte, Baal en Canaan, etc. Mais c'est le même dieu, il a juste des différents noms. Et dans la langue de macédonienne de la ville de Thyatire, Apollo s'appelle Tirimnas, d'où vient le nom Thyatire. C'est une ville commerçante fondée par des Grecs en Asie, suite à la victoire d'Alexandre le Grand sur les Perses. Et une des commerces principales de cette ville était le pourpre, c'est-à-dire la matière nécessaire pour teindre de l'étoffe en pourpre, une poudre qui était obtenue de certains, comment on dit ça en français, des crustacés, une espèce de petit crabe qu'on trouvait dans les environs de Thyatire. Et si je vous dis que pour teindre une mouchoir en pourpre, il fallait à peu près 32 000 de ces petits crabes. Vous comprenez pourquoi le pourpre était la couleur des rois. Vous et moi, on ne savait pas se le payer. Aujourd'hui, cette petite ville en Turquie s'appelle Akhisar, compte à peu près 9 000 habitants, dont un tiers chrétiens. Il y a même une église qui a été construite dédiée à Saint Jean, mais qui aujourd'hui a été convertie en mosquée. Écrit à l'église, à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Voici ce que dit le Fils de Dieu, le titre le plus élevé du Messie, n'est-ce pas? Mais il n'est appelé ainsi qu'ici dans le livre d'Apocalypse, pas avant et pas après. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça à l'église de Thyatire? Eh bien, l'idole d'Apollo avait des yeux faits de pierres précieuses qui reflétaient le soleil. Donc, quand on le regardait, on avait l'impression qu'il sortait des flammes de feu de ses yeux. Vous me suivez? Et Jésus dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Nous avons vu ça la fois passée dans le premier chapitre. Je connais tes œuvres. Et quelle bonne liste d'œuvres. En tête de liste, qu'est-ce que vous pensez? Amour, n'est-ce pas? Amour. Vous savez, dans toutes ces lettres des églises, l'amour n'est mentionné qu'une seule fois. C'est étonnant. Et c'est ici. Pourquoi en tête de liste? Parce que pour une église et pour chaque membre de l'église et pour chaque chrétien, l'amour n'est pas un accessoire, ce n'est pas une option. C'est essentiel. C'est la base essentielle dans notre vie en tant que chrétien. Je lis quelques versets de 1 Corinthiens 13. Vous saviez que j'allais lire ça. Hein? J'avais pensé, va lire ça, bien. Mais je ne vais pas le lire dans la version que nous connaissons d'habitude. Je vais le lire dans la parole de vie. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi aussi grande pour déplacer des montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. On ne peut pas s'appeler chrétien si on n'aime pas. Et Jean qui écrit ces lettres, comment est-ce que nous le connaissons? Quel titre est-ce qu'il a été donné, il lui a été donné depuis des siècles? L'apôtre de l'amour. L'apôtre de l'amour. Dans son évangile, il parle de l'amour 53 fois. Ça veut dire plus que le double que dans les trois autres évangiles combinés. Et dans ces trois petites lettres, à la fin du Nouveau Testament, il parle de l'amour 52 fois. L'apôtre de l'amour. Je le cite. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et celui qui, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Une église dont la base n'est pas l'amour n'est pas une église. Vous êtes d'accord? Deuxièmement, je connais ta foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Après l'amour, la foi aussi. Pas un accessoire, pas une option, mais le moteur de la vie spirituelle. On entend parfois des gens dire « moi je ne peux pas croire, c'est un mensonge ». Tout le monde peut croire, tout le monde ne veut pas croire. Parce que la foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Je connais ton fidèle service. La fidélité, vous l'avez remarqué dans ces lettres, ça revient comme un refrain. Dans sa parabole des talents, son parabole des talents, vous le connaissez, Matthieu 25. Jésus dit à ses deux serviteurs qui sont fidèles, et je crois que c'est le plus grand diplôme que nous pouvons recevoir en tant que chrétiens. Jésus dit, bon et fidèle serviteur. Qu'est-ce qu'il cherche en nous, la bonté et la fidélité? Je connais ta constance. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus peut compter dessus? Vous avez des chrétiens qui sont comme des papillons, n'est-ce pas? Ils volent de fleur en fleur. Cette fleur-là est plus jolie. Ah, on vole sur. Et puis on voit une fleur-là qui est plus jolie, on vole là. Vous avez des chrétiens comme ça dans les églises. Hein? L'église-là, ils ont un nouveau pasteur. Il est plus beau que notre pasteur à nous. Hop, on change d'église. Ou cette église-là, ils ont un nouveau bâtiment. Oh, on va dans le nouveau bâtiment. Ou cette église-là, ont une plus belle musique. Non, frères et sœurs. Non. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette église, vous qui êtes membre ici? Parce qu'elle est la plus grande, la plus belle, la plus réussie de toute la région. J'espère que ce n'est pas ça. J'espère que si vous êtes membre de cette église, c'est parce que vous croyez que c'est ici que Dieu vous place. Et si vous croyez ça, vous restez ici jusqu'à ce que Dieu dise, et maintenant je veux t'impliquer autre part. Et si Dieu ne dit pas ça, vous restez dedans. Dans des hauts, vous n'avez pas des bas dans cette église. Il n'y a que des hauts. Vous m'avez compris. Hein? Pas seulement quand le soleil brille, mais aussi quand il fait tempête. Parce que ça, c'est la constance. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, peut dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une église qui progresse? Tout ce qui est en bonne santé grandit. Si vous voyez un bébé, je ne sais pas, ce sont les femmes qui sont experts de bébés, mais quoi comme ça? Un peu. Bon. Un bébé? Bon, il y en a qui... Hein? Mais si un an après... C'est toujours comme ça. Et si 10 ans après, c'est toujours comme ça, vous dites, pas normal. Un bébé doit grandir, n'est-ce pas? Une église qui ne grandit pas, qui ne progresse pas, n'est pas normal. Tout ce qui est en bonne santé grandit. On ne grandit pas toujours plus haut. Moi, j'ai arrêté il y a longtemps de grandir plus haut. Maintenant...
Hein? Mais on grandit quand même. Et une église doit progresser. Une église doit grandir. Pas seulement en nombre, ça aussi. Mais aussi en amour et en spiritualité, en connaissance de la parole de Dieu. En service, en compassion, en sanctification. Est-ce que notre vie a progressé, notre vie spirituelle a progressé en 2014? Est-ce qu'elle progressera plus loin en 2015? Je vais vous demander quelque chose. Je veux pas insulter quelqu'un. Il n'y a pas de luxembourgeois parmi nous, hein? Non? Parce que j'aimerais pas être luxembourgeois. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez ce que c'est leur devise nationale? Nous voulons rester ce que nous sommes. C'est vrai ce que je vous dis. C'est leur devise nationale. Nous voulons rester ce que nous sommes. Moi, je veux pas rester ce que je suis. Je veux devenir ce que Jésus veut que je sois. N'est-ce pas? Ne soyons pas des chrétiens luxembourgeois. Et maintenant, devenons sérieux. Mais j'ai contre, ce que j'ai contre toi. Tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. À première vue, cette église de Thyatire est une église formidable. Mais pas tout à fait. Le mai à Éphèse, c'est leur perte de premier amour. À Thyatire, le mai, c'est la tolérance de Jézabel. Jézabel, vous connaissez Jézabel, n'est-ce pas? Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, 20, 21, il y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme qui l'excitait. Et il y a une Jézabel dans l'église de Thyatire, une femme qui enseigne des fausses doctrines. Il y a des gens qui emploient ce verset pour interdire tout ministère aux femmes. Ça n'a rien à voir avec le ministère des femmes. Ça a à voir avec un ministère qui est une fausse, un faux ministère. Jésus nous prévient, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges, des miracles pour séduire les élus. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. L'apôtre Paul avertit, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Qu'est-ce que c'était la séduction de Jézabel? Eh bien, l'impudicité et l'idolâtrie surtout. Deux péchés qui, 2000 ans plus tard, dans toute leur forme moderne, menacent encore l'Église de Dieu. Je lui ai donné du temps, dit Jésus, pour qu'elle se repentît, mais elle ne veut pas se repentir. Dieu est patient. Il nous accorde du temps. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient pas point le coupable pour innocent. Le Seigneur ouvre la patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Mais quand la patience de Dieu, qui devrait conduire à la repentance, est rejetée, alors Dieu passe au jugement. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent. Et toutes les églises, y compris nous aujourd'hui, connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et que je rendrai à chacun selon ses œuvres. L'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. L'Éternel des armées éprouve le juste, il pénètre les reins et les cœurs. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et Apocalypse termine, je viens bientôt, ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun ce, selon ce qui est son œuvre. Nous terminons. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Frères et sœurs, nous régnerons avec Jésus. Nous régnerons avec Jésus. Dans la parabole des mines, le Seigneur dit au serviteur fidèle, parce que tu as été fidèle, en peu de choses reçois le gouvernement de 10 villes.
Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et Jean voit dans l'Apocalypse, je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. On va commenter tout cela plus tard. Mais Jésus promet aussi l'étoile du matin au vainqueur. L'étoile du matin est la planète que nous appelons la planète Vénus, qui apparaît au ciel au moment où la nuit devient l'aube. Et Jésus dit, je suis l'étoile brillante du matin. Jésus se donne à nous. Il se donne lui-même à nous. Pouvons-nous réagir en lui donnant moins que nous-mêmes? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Merci, frère.
Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole qui est puissante. Nous voulons qu'elle fasse son œuvre dans nos cœurs et je vous invite à prier quelques instants avec moi. Seigneur Père, nous te remercions pour cette parole, Seigneur, qui nous a été apportée.